Donc, que penser de cette agitation autour de ce zizi baladeur de Clinton? Pour moi, l'obscénité, elle se trouve dans le fait de faire une histoire de cette histoire. Quoi de plus obscène que d'avoir vu la conférence de Clinton et Arafat tourner au déballage de culottes pour savoir si la fellation, c'était ou non un acte sexuel. Alors qu'Arafat se demande combien de morts et de souffrances il faudra pour imposer la paix en Palestine. De plus, quelque part, ces actions hypermédiatisées contre le harcèlement sexuel finissent en fait par discréditer les femmes qui luttent contre le harcèlement sexuel. Premièrement, parce que autour de Paula Jones, celle qui souleva l'histoire, si on peut dire, qui se plaint de harcèlement sexuel, c'est toute l'extrême droite moraliste puritaine qui s'organise. Et Bill Clinton, on peut le dire, est dans ce cadre-là victime d'un complot des réseaux de la droite ultra-conservatrice. Ainsi, le procureur soi-disant indépendant, Kenneth Starr, qui est au centre de cette toile d'araignée, qui orchestre les fuites qui alimentent la campagne, est en fait un républicain militant qui a voulu se présenter au Sénat comme un candidat républicain en Virginie. Ce juriste, qui a commencé sa carrière sous Ronald Reagan, a continué d'être l'avocat des clients, y compris les grandes compagnies de cigarettes en conflit ouvert avec Clinton. Il est lié à des organisations et individus d'idéologie extrémiste. Dès son origine en 1994, l'affaire Paula Jones a été relayée, financée et orchestrée dans les médias par un groupe ultra-conservateur, la Conservative Political Action. Depuis l'an dernier même, Paula est conseillée par Suzanne Carpenter-McMillan, riche militante du mouvement contre l'avortement en Californie et défendue par Donovan Campbell, avocat de Dallas, qui a mené la lutte contre les droits homosexuels au Texas. Sa plainte est par ailleurs financée par l'Institut Ruth Ford de Charlottesville, organisation dirigée par un extrémiste de droite et spécialisée dans la lutte pour la liberté religieuse qui appartient à la constellation de la droite chrétienne. Dans ces milieux, Clinton est perçue comme l'antéchrist en raison de ses positions sur l'avortement, l'homosexualité et les valeurs familiales. L'abattre est le but avoué d'une véritable croisade. Autre lien, Linda Tripp, la fameuse confidente de Monica Lewinsky, est une amie et peut-être même une source de Gary Aldrich, l'ex-agent du FBI, qui a publié un livre sur les partouzes de Clinton. L'éditeur de cet ouvrage fait commerce d'autres publications. C'est une des bases, on y trouve entre autres toute la littérature de droite la plus extrême, des ouvrages révisionnistes sur Hitler, l'éloge du sénateur anticommuniste McCarthy, etc. Or, l'agent littéraire de cet éditeur est une New-Yorkaise du nom de Lucian Goldberg qui a poussé Linda Tripp à enregistrer ses conversations avec Lewinsky et à les fournir au procureur indépendant Kenneth Starr. Et la boucle est bouclée. Linda Tripp avait d'ailleurs, dans les années 70, servi d'agent de déstabilisation de la campagne Nixon pour détruire la candidature du démocrate libéral McGovern. Donc on voit que derrière cette affaire de harcèlement sexuel, c'est toute l'extrême droite la plus moraliste que les femmes et les féministes détestent qui s'organise. En plus, quelque part, ces procès où les femmes demandent des centaines de milliers ou même des millions de dollars pour réparation de harcèlement sexuel me laissent une arrière-pensée certaine de prostitution. Aux Philippines, on réclame la peine capitale pour des avortements. Le Parlement philippin devra se prononcer sur un projet de loi présenté par un sénateur et prévoyant la peine de mort pour les femmes recourant à l'avortement et pour les médecins qui le pratiquent. Les Philippines ont déjà, selon les Nations Unies, les lois les plus sévères du monde en matière d'avortement. Le ministre de la Santé, Reodica Carmencita, a affirmé que le gouvernement soutenait la proposition, considérant que l'avortement est un crime odieux. Selon le ministère, près de 17% des femmes vivant à Manille auraient déjà avorté au moins une fois. En En Algérie, les massacres continuent. Et lors d'un congrès, un meeting qui s'est tenu à Paris la semaine dernière, à la Mutualité, meeting organisé par des intellectuels contre l'amalgame fait entre GIA, FIS et forces de l'autorité algérienne, des survivantes sont venues témoigner. Voilées, deux survivantes, deux rescapées ont longuement raconté leur calvaire. Au cours de ce meeting de solidarité organisé par Génération Écologie et des intellectuels français contre les massacres. Désignant le GIA, les groupes islamiques armés, comme leurs tortionnaires, elles se sont exprimées en arabe, traduites par la députée d'Alger, Khalida Messaoudi, qui était présente également au meeting. C'est le cas, par exemple, Zoubeïda, une femme voilée, de noir, 23 ans, a vu toute sa famille assassinée. Elle a été enlevée avec ses 7 cousines. Réduite en esclavage dans un campement islamiste, elle a d'abord été violée par un émir national, puis par tous les autres hommes du groupe. Elle a assisté aux tortures et aux meurtres des autres jeunes filles enlevées avant elle. Au bout de 3 mois, elle a réussi à s'enfuir. Voilée de rouge, Yamina a 40 ans, elle a 8 enfants. Bergère, elle a été enlevée alors qu'elle gardait ses moutons. Comme Zoubeïda, les kidnappeurs ont commencé par la mettre toute nue, puis l'ont emmenée dans un campement. L'émir l'a trouvée trop vieille, mais il l'a violée avant de la passer à des hommes. Elle a aussi miraculeusement survécu en prenant la fuite dans la nuit. Depuis, elle n'a pas revu ses enfants. Ces récits, dont les détails et l'horreur sont inimaginables, justifient d'être qualifiés, comme l'a fait Robert Badinter, de crimes contre l'humanité. Pour lui, je cite, « Les assassinats collectifs, les viols collectifs, les égorgements de bébés, d'enfants, de vieillards portent un nom, celui de crimes qui atteignent l'humanité tout entière et qui concernent l'humanité, quelle qu'elle soit, quel que soit le lieu où ils se commettent. » Le meilleur conducteur de l'année, désigné par l'Organisation iranienne des transports, est une conductrice. Exceptionnelle en vérité, puisqu'elle est aussi la seule et unique iranienne à conduire des camions et des autocars. Si Massoumeh Soltanblaghi a été choisie, ce n'est pas seulement pour ses prouesses au volant, mais pour son respect du code de la route et des passagers. Cette infirmière, mère de 4 enfants, a conduit son premier poids lourd il y a 6 ans, lorsque son mari routier a dû prendre un congé maladie suite à une crise cardiaque. Aujourd'hui, conductrice d'autocar, elle fait chaque semaine le long trajet entre Karaj, une ville industrielle proche de Téhéran, et Bandar Abbas sur le golfe Persique. Sur ordre d'un général, les soldats israéliens devront retirer toutes les photos de femmes nues qui ornent les murs des chambrées. Le seul élément de décoration seront désormais le drapeau israélien et les portraits du président et des chefs d'état-major. Rien ne vaut une petite masturbation devant le portrait de Netanyahou. Pour la première fois au Mexique, le ministère des Affaires étrangères est confié à une femme, anciennement députée au Sénat. Après des études en sciences politiques aux États-Unis, Mme Rosario Green Marcias a travaillé aux Nations Unies et comme ambassadrice en Allemagne de l'Est. On espère qu'elle sera un peu plus conciliante avec le conflit qui oppose les paysans et les Indiens du Chiapas et l'armée. En Angleterre, les dockers de Liverpool seront indemnisés mais pas réintégrés. Environ 300 dockers de Liverpool, licenciés en septembre 1995 et qui luttaient depuis lors pour trouver leur emploi, ont décidé de cesser leur mouvement. Celui-ci était devenu très symbolique dans un pays où les conflits sociaux se font de plus en plus rares. Les dockers ont finalement accepté une offre de la direction et ont voté à une majorité suffisante pour cesser le mouvement. C'est ce qu'a indiqué le porte-parole du syndicat. Chacun des 320 dockers percevra 28 000 livres en échange de l'arrêt du mouvement. Les débardeurs du port de Liverpool ont ainsi accepté, après 2 ans et 4 mois, l'offre qui leur avait déjà été faite depuis plusieurs mois. Ces dockers avaient été licenciés en septembre 1995 pour avoir refusé, en solidarité avec d'autres travailleurs du port de Liverpool, de franchir un piquet de grève pour aller travailler. Jusqu'à hier, les dockers de Liverpool avaient rejeté toutes les propositions financières exigeant uniquement leur réintégration. Tous les jours, ils organisaient un piquet et toutes les semaines, ils organisaient une assemblée générale où immanquablement, le mouvement était reconduit. Ce mouvement avait trouvé un soutien extraordinaire parmi les femmes, entre autres les femmes de Docker, mais pas seulement, toutes les femmes de Liverpool, mais plus largement puisque c'était un des premiers mouvements à avoir utilisé Internet pour plaider sa cause. C'est ainsi notamment qu'il a généré des solidarités dans tout le monde, entre autres dans le monde de la culture, du showbiz et du sport. Tout le monde se rappelle le magnifique film que Ken Loach avait tourné sur ce mouvement. En France, le Front National établit la préférence Front National dans les municipalités qu'il contrôle. Entre autres à Vitrolles, un projet a été déposé pour encourager la natalité française et de donner une prime à 5 000 francs pour tout bébé qui a une peau blanche, bien entendu. À Vitrolles, il y a les bons bébés et les autres. Forte de ce principe, la municipalité Front National a décidé d'allouer une prime de 5 000 francs aux parents dont les enfants sont nés. En 98, les bébés ne doivent pas satisfaire à des critères particuliers, mais les parents, oui, ils doivent habiter la ville depuis 2 ans au moins. Et en tout cas, un des parents doit être ressortissant de l'Union européenne. Votée mardi en conseil municipal, cette mesure entrera en vigueur dès que la sous-préfecture l'aura reçue. En présentant cette décision, Bruno Maigret, maire consort de la mairie dirigée par sa femme Catherine, a insisté sur son caractère historique. Je cite, c'est la première mesure de préférence nationale mise en œuvre sous la Ve République. Eh oui, et ne lui parlez pas de discrimination. Non, dit-il, d'abord, on ne dit pas discrimination, on dit préférence. Ha ha ha, que c'est drôle. Et la prime sera versée à tous, quelle que soit l'origine ethnique ou la religion. Bien sûr, en venant de l'Union européenne, on ne risque pas d'avoir des gens trop basanés. Donc, la loi n'est pas raciste. On n'est d'ailleurs pas raciste au Front National, tout le monde sait ça. Enfin, quand même un peu. Chacun sait, dit Maigret, que la population étrangère a un taux de natalité très élevé, que leurs familles sont en général très nombreuses et que donc il faut encourager la natalité française. L'objectif est donc clair. Bien sûr, cette loi est une atteinte au principe d'égalité car selon le Conseil constitutionnel, les charges créées par l'éducation d'un enfant sont les mêmes que l'on soit européen ou non, que l'on soit blanc ou noir, et peut-être même plus si on est noir. Si les juges usent de ces arguments, la prime au bon bébé de Vitrolles pourra donc être annulée. Mais du côté du Front National, le débat juridique fait sourire. Ce qui compte, c'est de lancer la campagne des régionales et de montrer que le Front National applique son programme. C'est ce que dit Maigret. Pour le reste, on verra plus tard. Et je cite, « La question de la légalité ne nous préoccupe pas à ce stade », a reconnu Bruno Maigret. En Suisse, le tribunal fédéral persiste des signes. Il vient une fois de plus de refuser d'accorder l'autorité parentale conjointe à un couple divorcé des Grisons. Les parents s'étaient mis d'accord par convention pour mener de front l'éducation de leur fille. Mais le tribunal Grison a refusé de les suivre. Ils ont donc fait recours en vain car le tribunal fédéral a rejeté leur demande. Il avait déjà traité un cas analogue il y a 6 ans de la façon identique. Pour la première fois, une femme accède à la tête du gouvernement de Bâle-Ville. Le Grand Conseil a élu la socialiste Véronica Schaller, directrice de la santé publique du canton. Elle était déjà la première Baloise à accéder au Conseil d'État en 1992. Le corps de musique officiel de l'État et de la ville de Fribourg n'admet toujours pas les femmes. Mais bientôt, peut-être, qui sait, si tout va bien, le 13 février, à la veille de la Saint-Valentin, les femmes pourront peut-être venir sonner et jouer du trombone à côté de leurs petits copains. Ces messieurs ne rigolent pas, c'est très sérieux. Alors qu'à l'inverse de l'Orchestre symphonique de Vienne, la formation fribourgeoise n'a toujours pas accepté la mixité dans son rang. Et c'est dans le plus grand secret, au moyen d'un questionnaire conçu avec une rigueur toute militaires que les troupes ont été sondées avec un maximum de précautions. La réponse donc le 13 février. Le corps suisse d'aide en cas de catastrophe est désormais bien équipé. Il vient de faire l'acquisition de 25 tchadors prescrits par les femmes, pour les femmes par la religion islamique. Ces tenues complètes sont entreposées à l'aéroport de Zurich-Leuthen, avec le reste de l'équipement personnel prêt à servir lors des prochaines missions du corps dans les territoires placés sous la protection des islamistes. Il faut dire qu'en mai de l'année dernière, des femmes maîtres chiens et médecins de l'équipe médicale d'urgence de la chaîne suisse de sauvetage n'avaient pas pu intervenir dans l'Est iranien frappé par un tremblement de terre au motif qu'elles n'étaient pas vêtues correctement. Le groupe des femmes en noir, qui depuis des années soutient les femmes en ex-Yougoslavie, nous donne des nouvelles qui sont assez réjouissantes, puisqu'entre autres, le centre Medica, financé par des dons en Suisse et en Allemagne, fonctionne de mieux en mieux et l'argent qui a été envoyé est maintenant directement géré par les travailleuses elles-mêmes. Les Allemandes, qui avaient le personnel médical allemand qui avait lancé ce projet, a décidé de passer le relais à l'équipe bosniaque qui est maintenant parfaitement capable de s'autogérer. À condition, bien sûr, que la solidarité ne se relâche pas et qu'on continue à proposer, à financer le soutien de ce bureau. Et puis, elle nous annonce également que d'autres groupes de femmes se sont créés, entre autres à Sarajevo, des femmes de Srebrenica qui ont commencé depuis quelques mois à défiler pour la vérité. Tous les 11 de chaque mois, elles viennent de l'enclave musulmane pour battre le pavé de la capitale bosniaque. Pourquoi le 11 ? C'est parce que c'est ce jour-là que l'enclave musulmane a été conquise par les Serbes. Ce fut un 11 janvier en 95. Ces femmes donc défilent tous les 11 du mois et ce mois également. Elles sont venues avec des banderoles où on pouvait lire « Nous voulons la vérité, où sont nos 10 000 fils disparus ? Europe, pourquoi tu te tais ? Réveille-toi ! » Mais non seulement elles manifestent, mais elles ont également essayé de mettre en place une structure pour que les femmes puissent travailler, pouvoir trouver une certaine indépendance et retrouver surtout leur dignité. Ainsi, à Tuzla, des ateliers ont été ouverts où des pulls verts et des tapis sont confectionnés. L'argent récolté alimente la caisse des 5 à 6 associations que ces femmes ont créées. Certaines également ont mis en place des psychothérapies de groupe ou individuelles pour essayer de penser les blessures de la guerre. Et les femmes en noir vous invitent à leur assemblée générale où un film sera présenté, un film qui montre la rencontre de l'été 96 et qui a été filmé et par Zoran Solomon et Elga Redmesser. Donc ce film qui sera traduit sera présenté le mardi 10 février à 20h. C'est les femmes en noir donc qui appellent à leur assemblée générale. Cette assemblée a lieu au bureau de l'égalité de rue de la Tainerie, 1227 Carouge, le mardi 10 février. Excusez-moi. Pour terminer, j'aimerais vous donner quelques rendez-vous. Une manifestation ce samedi 31 janvier, manifestation pour mettre en accusation publique l'United Bank of Switzerland, c'est-à-dire l'union de l'UBS et la SBS. Ce sont le comité d'accueil d'Action mondiale des peuples qui appelle à cette manifestation qui a lieu en même temps qu'à Davos. Des puissants de ce monde continuent à se partager le gâteau tout seul. Et le gâteau, c'est aussi bien sûr les banquiers qui de plus en plus se baffrent en laissant les miettes et de moins en moins de miettes à leurs employés. C'est donc une lettre ouverte aux banquiers que les manifestants, les gens qui appellent à la manifestation, prennent note de votre pouvoir pharaonique. Vous qui manipulez des actifs financiers équivalents désormais à 23 fois le budget de la Confédération. Vous avez pris dans le secret absolu une décision qui supprime directement des emplois de 13 000 personnes. Vous réorientez vos crédits exclusivement vers les activités spéculatives et la grande finance. Vous provoquez sciemment une multitude de faillites de petites et moyennes entreprises et d'exploitations agricoles. Ainsi, 13 000 fermes ont déjà disparu en 6 ans. Activités parfaitement rentables, mais qui ne peuvent pas atteindre les rendements abusifs que vous pouvez réaliser en finançant la spéculation sur les monnaies. Peut-on imaginer une meilleure démonstration de la nécessité d'un contrôle de la société sur le libre marché, ce contrôle que vous appliquez à dénigrer et à démanteler ? C'est donc contre cette fusion que le Comité d'Action Mondiale des Peuples appelle l'United Bandy of Switzerland, que cette manifestation est appelée le samedi 31 janvier à 14h à la zone piétonne. Des chefs d'accusation seront dressés par des différents secteurs sociaux affectés. Et puis, vous pouvez également venir vous informer et débattre sur la question le vendredi 30 janvier à 20h30 avec François Chesnay et Charles-André Udry, économistes, qui parleront sur l'OMC. Cette conférence, le 30 janvier, a lieu à la salle Saint-Boniface, c'est 14 avenue du Mail, à 20h30. Et puis aussi, bien sûr, la fête n'est pas oubliée. C'est le bistrot au quai de Rino, boulevard des philosophes, qui vous invite le samedi 31 janvier à faire une fête avec de la salsa. Alors, l'Action mondiale des peuples, on en a déjà parlé. C'est une grande association qui regroupe des dizaines et des centaines d'associations dans tout le monde. On peut y voir entre autres l'association paysanne de l'État de Karnataka en Inde, la centrale sédiniste des travailleurs, le Front zapatiste de libération nationale du Mexique, la Fondation pour l'analyse indépendante, etc., etc. Et tous ces gens appellent donc à une réunion, une conférence contre l'OMC qui aura lieu du 23 au 26 février à Genève. Mais dès le 18, déjà, des personnes viendront, plusieurs centaines de délégués, des mouvements populaires, paysans sans terre, femmes des maquillas, indigènes, syndicalistes, écologistes, seront à Genève pour la conférence d'action mondiale des peuples. Ils viennent pour coordonner des manifestations de protestation contre l'OMC et l'accord mondial sur les investissements qui se dérouleront partout dans le monde pendant le sommet de l'OMC au mois de mai. Ce sera la première conférence internationale populaire de Genève. Ce sont les syndicats, associations populaires, les squatters, tout cela qui organise l'hospitalité pour que les minces ressources servent entièrement à payer des billets pour les amis et amies et alliés du Sud. Toutes et toutes doivent donc être logées chez nous, chez vous. Ce sera un honneur, un plaisir de connaître et recevoir ces personnes. C'est le sel de la terre, des gens qui souvent risquent leur vie pour nous défendre, tous contre un ordre mondial implacable. Nous avons parié que nous serons suffisamment nombreux à Genève, prêts à s'inspirer de l'hospitalité des pauvres et à offrir un lit pendant au moins une partie de la conférence. Mais il manque encore des places, donc inscrivez-vous au téléphone suivant. 344-01-93, je répète, 344-01-93, c'est à Genève. Et puis, dans le cadre toujours de cette conférence, Espace Femmes International invite à une conférence débat, une table ronde plutôt, le samedi 21 février, sur le thème « Femmes contre l'OMC », table ronde avec les délégués à la conférence de l'Action mondiale des peuples contre le libre-échange et l'OMC. Cette conférence aura lieu à l'Université ouvrière à 18h. C'est à la place des Grottes. Et puis encore vous dire que le centre des Asters, la maison de quartier des Asters, vous invite à une soirée sur le Kurdistan qui aura lieu le samedi 7 février dès 17h avec des expositions d'artisanat, d'affiches, des livres, de la musique avec le groupe Koma Elim, des films et des repas avec des nombreuses spécialités kurdes. C'est donc le samedi 7 février dès 17h. Vous êtes sur la pleine lune, 93.8 MHz de femmes. C'est la fin de nos nouvelles. Dans quelques instants, c'est Marjolaine qui vous ouvre son cœur.
Eh bien oui, ne quittez pas, c'est restez avec nous. C'est le Memento de Marjolaine qui s'annonce. Et Marjolaine, piaf, piaf, piaf. Alors, vous restez à l'écoute, bien sûr, le temps qu'on ajuste tous nos jouets, nos petits boutons, nos petites choses. Vous restez avec nous.
Elle est dans l'essence des choses. Je sais le parfum des vacances dans les jardins couverts de roses. Une grand-mère aux confitures, un bon goûter dans la besace, piquante ronce, douce mûre. L'enfance est un parfum tenace. Tout ce sucre c'est vous, tout ce sucre et ce miel, le doux du roux de doux, l'amande en caramel. Les filles à la vanille, les garçons au citron, l'été sous la charmille et l'hiver au marron. Je reprendrai bien volontiers des mignardises que tu recèles et retrouverai dans mon soulier ma mandarine de Noël.